La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
À lire la presse officielle à Téhéran, on pourrait croire que l'Iran en a fini avec les manifestations de ces derniers jours.
L'ennemi a été repoussé, annonce fièrement une ce matin le quotidien Kayhan, qui se borne en fait à reprendre le discours prononcé hier par l'ayatollah Khamenei. Le calme est revenu, les agitations provoquées par des bandits et des vandales pilotés depuis l'étranger ont été matées, la sécurité des Iraniens est à nouveau assurée. L'ennemi a été repoussé donc dans les rues des villes d'Iran, comme il le sera sur le plan économique, complète le Tehran Times, autre média affidé du pouvoir. Le guide suprême l'a bien dit, les Iraniens ne doivent rien attendre de l'étranger, sinon des menaces de déstabilisation. Rien ne sert d'attendre la fin des sanctions économiques imposées par les États-Unis. C'est à chaque Iranien, entrepreneur ou simple consommateur, de participer, nous dit-on, à la relance du pays par lui-même. Il faut, dit Khamenei, cité par sa presse officielle, transformer en opportunité les sanctions qui étranglent le pays. Voilà le discours qui est donc martelé depuis ce mercredi par les seuls médias qui ont la possibilité de se diffuser sur Internet. Alors que les autres sont touchés par le blackout organisé par le pouvoir qui se poursuit fort opportunément pour éviter que nous, à l'extérieur, nous sachions ce qui se passe vraiment en Iran. La contestation, née vendredi dernier contre la hausse drastique du prix de l'essence, est-elle vraiment repoussée, matée, comme on vient de le dire? Eh bien, pas si sûr à croire Radio Farda, la radio en persan financée par les États-Unis en Iran. Elle prend comme source, avec toutes les précautions nécessaires, les rares témoignages de manifestants qui franchissent le mur de la nuit numérique, où l'on entre voit que les manifestations se poursuivent, malgré, nous dit-on, 140 morts au moins dans les répressions menées depuis maintenant 6 jours. Ces manifestations ont changé de forme, elles se déroulent plutôt désormais à la nuit tombée, en particulier dans la ville de Mashhad, dans le sud du pays, c'est tout près de la frontière avec l'Irak. Il s'y dit, là-bas, que les protestataires utilisent des armes à feu pour contrer les gardiens de la révolution qui, eux, ont déployé des chars face à la foule.
Et même si les manifestations ont été réprimées, les leaders du mouvement emprisonnés, la colère qu'elles ont exprimé n'a pas fini d'ébranler la République islamique, Camille.
Oui, ça c'est ce que nous disent dans les pages du Wall Street Journal Arezou Ekbali et Dion Nissenbaum. Si le symptôme a été contenu, le mal reste vif dans la population iranienne et les tensions vont perdurer jusqu'à la prochaine éruption. Ce qui s'est passé ces derniers jours, la vigueur et la rapidité avec laquelle le pouvoir a supprimé la contestation, tout cela nous montre, selon le spécialiste du pays Ali Vaes de l'International Crisis Group, à quel point ce pouvoir iranien vit dans une mentalité d'assiégé face à ce qu'il considère comme une guerre menée sur tous les fronts par les États-Unis pour l'affaiblir, de l'intérieur avec le blocus économique comme de l'extérieur, donc avec des soulèvements populaires anti-iraniens qui se déroulent en ce moment en Irak et au Liban. Il fallait donc agir vite et fort pour éviter qu'une crise équivalente s'installe en Iran. En moins de 3 jours, des soi-disant meneurs du mouvement ont été identifiés, arrêtés, condamnés, nous dit l'agence d'État Fars, à des peines de prison de 6 à 10 années. Le message de dissuasion est très clair. D'ailleurs, le Wall Street Journal cite des Iraniens dans les manifestations d'hier qui disent qu'ils sont traumatisés par la violence avec laquelle ils voient leurs dirigeants tenter de les faire taire, traumatisés mais toujours mobilisés apparemment. Satan a confirmé ce qu'écrivait dès mardi Osama Al-Sharif depuis Amman dans le Jordan Times, à savoir que la colère des Iraniens, même chassés de la rue, ne peut faire que croître dans les prochains mois avec l'asphyxie économique du pays. Jusque-là, Téhéran se donnait un peu d'air financièrement en tirant profit de ses investissements massifs en Irak et au Liban, mais là-bas, on l'a dit, la crise devrait provoquer une récession majeure dans les mois qui viennent. L'ayatollah Khamenei avait donc sans doute un peu raison quand il déclarait que la menace viendra, comme toujours, de l'extérieur.
Et puis, très loin de Téhéran, à Sydney, le climat est devenu irrespirable au sens littéral du terme.
Et dans un reportage publié ce jeudi matin par le Sydney Morning Herald, on se résigne avec les habitants de la métropole australienne à vivre toute la journée durant avec un masque anti-pollution sur le visage. Comme à Pékin, glisse une mère de famille qui a déjà compris qu'il allait falloir s'y habituer, comme il va falloir renoncer, c'est le cas depuis maintenant 2 jours, à profiter du panorama dans la célèbre baie de Sydney. Avec les nuages toxiques qui enveloppent la ville, tout est voilé comme pris dans un brouillard, sauf que ce brouillard est chargé de cendres, de fumée qui proviennent des feux de brousse, lesquels font rage dans toutes les régions du sud-est australien. Et il ne faut pas s'attendre à ce que cela se lève avant plusieurs jours, ajoute la chaîne ABC News, vu que les températures restent bloquées au-dessus de 40 degrés et que la sécheresse sécheresse atteint des niveaux historiques. The Guardian, édition australienne, poursuit. Dans l'état de Victoria, plus au sud, encore région de Melbourne, le code rouge a été activé pour tenter de protéger les personnes souffrant d'asthme et de maladies respiratoires particulièrement en danger sous ces conditions.
Mais Camille, l'Australie est confrontée chaque année à une saison dite des bushfires, des feux de brousse.
Oui, mais habituellement, cette saison, elle débute en janvier, en février, au plus fort de l'été austral, et jamais elle n'a eu de telles conséquences sur la santé de millions de citadins. Ça, c'est le contexte apporté par le géographe et environnementaliste David Bowman, interviewé par le magazine Science. Et il nous dit que ce qui est en train de se passer en Australie, en même temps d'ailleurs que les incendies monstres qui font rage en Californie, tout cela est proprement historique, extraordinaire et effrayant. La forêt qui brûle en Australie, 1 650 000 hectares, était jusque-là considérée comme peu sujette au risque d'incendie. Pour qu'elle s'embrase, il a vraiment fallu des conditions extrêmes, des conditions qu'on peut difficilement dissocier du phénomène global de réchauffement climatique. Si nous avions osé imaginer une telle échelle de destruction de la forêt mondiale, et le chercheur ne parle là même pas de l'Amazonie, il y a encore quelques années, on nous aurait reproché de tomber dans l'hyperbole, dans l'exagération, conclut donc David Bowman. Et pendant ce temps, le Premier ministre de l'Australie, Scott Morrison, assure au Guardian que ces incendies n'ont aucune conséquence sur les émissions de gaz à effet de serre de son pays, et donc il n'est pas nécessaire de moins polluer ailleurs pour compenser. Il y en a apparemment beaucoup en Australie que ce déni gouvernemental fait pour le moins tousser.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr.